Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. Yacouba Ouédraogo donc avec vous, comme Jacques le disait, pour VOA et pour Sporama, pardon, sur VOA Africa. Et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Amine Birouk est en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et nous retrouvons Valdo Yamba Yamba depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Bonsoir Valdo.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs.
Amdine Si est à Columbus, ici donc aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOAC.
Et donc on essaiera de joindre Élisée Mpatine d'ici là. C'est ce soir qu'on connaîtra le successeur du Croate du Real Madrid, Luka Modric, Ballon d'Or France Football 2018. 30 joueurs sont en lice. Les Sénégalais Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, l'Égyptien Mohamed Salah, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Alors Amine, il y a eu beaucoup de bruit autour de ce Ballon d'Or 2019, là qui n'est pas encore attribué, je le rappelle. La semaine dernière, le journal espagnol Mundo Deportivo a désigné Lionel Messi, selon ses sources. La sortie de l'ancien international sénégalais Diomansi Camara, qui parle déjà de mascarade. Et aux dernières nouvelles, Sadio Mané n'a pas fait le déplacement de Paris. Ça ne sent pas bon tout ça.
Ça ne sent pas bon, d'autant plus que Messi, qui a pour habitude de snober ce genre de récompense, tout comme Cristiano Ronaldo quand ils ne sont pas vainqueurs, a fait le déplacement en famille. Donc les infos de la presse catalane, qui est souvent très bien renseignée, pourrait être un indicateur concernant le verdict de cette édition 2019. Je rappelle que uniquement les journalistes ont eu droit au vote et visiblement leurs suffrages se sont reportés sur Cristiano Ronaldo, ou plutôt sur Messi. Ce qu'il faudrait quand même déterminer, c'est le critère par rapport à l'attribution du Ballon d'Or. Est-ce qu'on attribue le Ballon d'Or en fonction des performances individuelles et collectives, des titres, du palmarès, ou en fonction du talent? Si c'est pour le talent, on attribuera le prix chaque année à Messi jusqu'à la fin de sa carrière. Si c'est par rapport aux récompenses individuelles, il va falloir quand même primer ce qui a été remporté par le joueur de Liverpool, Sadio Mané, ou son coéquipier Mohamed Salah. Si on devait ajouter à cela la performance du Sénégal lors de la dernière CAN, qui était finaliste, la Super Coupe d'Europe remportée par Liverpool, donc par Sadio Mané, voilà autant d'indicateurs qui devraient récompenser l'international sénégalais, ou a fortiori l'international égyptien. Quand on se rappelle le Messi, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné la Liga la saison dernière, plus le sous-leader européen. Il a échoué avec le Barça dans sa quête de la Champions League. Rappelez-vous de la fameuse remontada d'Anfield Road en faveur des Reds. Et il a lamentablement une nouvelle fois échoué avec la sélection argentine lors de la dernière Copa América. Donc, si aujourd'hui on devait primer les récompenses, plutôt les performances individuelles, visiblement, Messi n'est pas véritablement celui qui mériterait de l'emporter. Ça devrait également pousser à la réflexion par rapport au sort des joueurs africains, des internationaux africains, d'autant plus que ces derniers n'ont jamais été récompensés, à l'exception de George Weah, qui l'avait remporté une seule fois en 1995. L'Afrique marginalisée, oui. Pourquoi? Quelles en sont les raisons? Et surtout, pourquoi continuer à s'acharner à octroyer une récompense en fonction de critères fluctuants? Voilà une interrogation qui mériterait la réflexion.
Merci bien, Amine Birouk. Alors, Amdine, vous avez suivi la sortie de Diomansi Camara à travers sa lettre publiée dans les médias sénégalais surtout. Il parle de mascarade, parlant de ce Ballon d'Or 2019 là. Le trophée n'est pas encore attribué, je le rappelle encore. Voit-il les choses venir?
Oui, Diomansi a raison. Il est frustré, il est comme tous les Sénégalais, comme tous les Africains, très frustré, mais moi je ne parle pas de mascarade. Mais en tout cas c'est frustrant, parce que je suis en phase avec Amine quand il dit les performances individuelles, mais également collectives sur la saison. Si on ne se base que sur cela, je pense que ce soit Sadio Mané, que ce soit Salah, il méritait amplement de remporter ce Ballon d'Or France Football cette année, puisque comme on l'a dit, Messi n'a gagné que le championnat. C'est vrai qu'il est sous les torts, mais le fait de marquer beaucoup de buts, ça n'a rien à voir avec ce titre de Ballon d'Or France Football. Donc il y a beaucoup de choses à revoir. Sadio a été performant, personne ne peut le nier. quelqu'un qui a porté son équipe, qui a permis à Liverpool de remporter de manière la Ligue des Champions, qui est la plus prestigieuse compétition africaine. Quelqu'un qui se paye le luxe d'être co-meilleur buteur du championnat d'Angleterre, le championnat le plus relevé au monde, sans marquer de penalty. Quelqu'un qui hisse sa nation à la finale de la CAN pour la deuxième fois de l'histoire. C'est des performances énormes que Sadio Mané a réalisées. Maintenant, bon, les gens, au lieu de se baser sur la saison, se basent sur le talent de Messi, puisque quand on regarde le talent de Messi, Messi est le meilleur footballeur du monde, mais sur une saison, Sadio a été 10 000 fois meilleur que Messi. C'est vraiment dommage. Et au Sénégal, les gens sont déçus parce qu'ils se préparent ils préparent une très grande.
Et donc, on va essayer de reprendre Amdine. Alors, Jules, le coach de Liverpool, Jürgen Klopp, a laissé entendre la semaine dernière que son défenseur Virgil van Dijk méritait le ballon d'or. Alors, Liverpool a 3 joueurs en lice, en plus d'une Hernandez désignée meilleur joueur UEFA de l'année. Il y a Mané et Salah. C'est quand même une sortie maladroite de la part du coach allemand de Liverpool.
Oui, mais bien sûr, ça va encore laisser jeter de l'huile sur le feu en ce qui concerne le côté, et disons que un peu, je n'utiliserai peut-être pas un mot qui peut pénaliser, mais disons que l'ostracisme qui pèse sur le continent africain, et donc on va se demander s'il faut automatiquement être européen ou sud-américain pour être ballon d'or. Donc là, c'est une chose. Mais sinon, moi, je pense personnellement que, disons, en interrogeant une histoire lointaine et même proche, qu'il y a des critères pour retenir les ballons d'or. Ces critères-là ont été fixés après la brillante campagne des années 80 de l'équipe des extraterrestres, comme on l'appelait, des Zico, Socrates et consorts, qui n'ont jamais joué une demi-finale, mais on était tenté de leur donner toujours un ballon d'or, disons, de titre de meilleur joueur de tournoi. Alors, à cette époque, on a fixé la limite à la demi-finale. Donc, ça fait donc beaucoup de joueurs nommés et qui atteignent la demi-finale d'une compétition majeure, surtout une grande compétition comme la Ligue des Champions, sont susceptibles d'avoir le ballon d'or. Ça a été le cas de Nusred en 2003 avec la Juventus, le cas de Tchétchenko en 2004 avec Milan AC, et même Ronaldinho, pour avoir fait et revenu le football spectaculaire, a eu un ballon d'or en jouant juste les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mais c'était une exception. Donc, ce qui est certain, c'est que ça soit se jouer entre Barcelone et Messi. Je pense que c'est là où le ballon d'or devrait se trouver.
Alors, Élysée, on le sait, l'ancienne gloire ivoirienne Didier Drogba est co-maître de cérémonie de cette édition 2019 au théâtre du Châtelet à Paris, et c'est lui qui va remettre donc ce ballon d'or. On allait souhaiter que cela soit à Mané. Ça allait être un symbole fort pour l'Afrique. Élysée, vous m'entendez?
Oui, je suis là.
Et donc, je disais que l'ancienne gloire ivoirienne Didier Drogba est co-maître de cérémonie et c'est lui qui va remettre ce ballon d'or France Football 2019. Ce serait un symbole fort si c'était à Mané que ce ballon d'or allait être remis.
Bien évidemment, Yacouba, puisque ce sera un Africain, Sadio Mané, qui a connu une très grande saison, il faut le dire, depuis la fin de la saison écoulée où ça a été couronné par la Ligue européenne des champions de football. Sadio Mané a continué par enchaîner de très belles prestations. Didier Drogba l'a fait en Angleterre, on se rappelle, avec Chelsea, où il demeure l'un des hommes forts de cette équipe de Londres, avec tant de performances qui a inscrit tant de buts dans ce championnat anglais avec Chelsea. Aujourd'hui, c'est un monument quand on va citer les attaquants qui ont brillé dans cette première ligue aujourd'hui. Si Mané remporte ce prix, ce sera quand même une reconnaissance inoubliable.
Et donc Mané, qui probablement est sur le point de passer à côté de ce prix-là, lui qui n'a même pas effectué le déplacement de Paris et donc qui a sans doute eu des nouvelles. Alors Valdo, tout le monde crie au scandale avant que ce prix-là ne soit remis. Est-ce que c'est votre sentiment?
Eh ben oui, je partage également, surtout pour Sadio Mané, qui à la fois a été délaissé, abandonné par son entraîneur Jürgen Klopp, alors qu'il a été pour beaucoup dans la consécration, bien sûr, au niveau de la Ligue des Champions, même en championnat, hein, et c'est un co-meilleur buteur du championnat anglais. Sadio Mané a séduit tout le monde, il a fait des prouesses, il a marqué des buts, il continue d'ailleurs à faire parler de lui en championnat. La preuve de son équipe est encore en tête, mais quand votre propre entraîneur ne donne pas un avis favorable pour vous, ça paraît compliqué. Certes, comme il n'est pas là, c'est certain, on ne peut que se mordre les doigts en disant que ce n'est pas lui qui sera sacré ballon d'or ce soir. Je me suis alors posé la question de savoir quels sont les critères, comment font-ils pour désigner ce ballon d'or. On a crié quand on a, bien sûr, donné les joueurs UEFA à Van Dijk et puis le best à Lionel Messi. Et on s'est dit, mais finalement, où sont les Africains? Comment peuvent-ils se trouver dans ces endroits? Là, déjà, quand vous n'êtes pas de l'UEFA, best de la FIFA, vous n'êtes pas désigné, ça paraît déjà compliqué. On voit mal que vous sortiez seul pour décrocher ces titres. Donc, ça se joue plutôt entre Van Dijk et Lionel Messi. Mais bon, tout porte à croire que les médias aussi informés ont déjà annoncé la victoire de Lionel Messi et ça a même révolté certains. Donc, l'Afrique, on se pose alors la question de savoir s'il faudra que Sadio Mané se contente du ballon d'or africain, parce que peut-être qu'ils se disent qu'eux bon, aussi ont un ballon d'or et que si Sadio Mané arriver à gagner ce ballon d'or, il serait peut-être l'Africain qui va initier à la fois les ballons d'or africains et les ballons d'or France Football. Donc ça paraît compliqué. La plus grande question est celle de savoir quels sont les critères, parce que ce que je sache, si ce n'est pas un joueur de Liverpool qui l'emporte, c'est compliqué, parce que vous serez d'accord avec moi quand je dirais que l'année de la Ligue des Champions, c'est le vainqueur de la Ligue des Champions qui va chercher ses trophées. Mais en 2010, on a crié aussi au scandale quand le même équipe allait chercher ses trophées, sachant que ce n'est pas lui qui a pu remporter la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de choses à dire autour de la désignation de ce ballon d'or de cette année, mais on attend voir. J'espère que cela soit attribué à l'un des joueurs, mais on pourra avoir un peu plus de...
Et donc, comme l'année dernière, le trophée Copa du meilleur joueur de moins de 21 ans et le ballon d'or féminin seront remis aussi ce soir, avec en plus une nouvelle récompense, le trophée Yashin du meilleur gardien. Chez les dames, l'américaine Megan Rapinoe, star du mondial 2019, suivie au loin par la Team USA, fait figure donc de grande favorite. L'américaine de 34 ans, qui évolue à Seattle, a remporté le soulier d'or de meilleure buteuse de la Coupe du Monde. Elle a aussi été désignée meilleure joueuse du tournoi. L'an passé, c'est la Norvégienne Ada Hegerberg qui avait reçu le premier ballon d'or féminin de l'histoire. Cette soirée spéciale donc a débuté autour de 16h temps universel et se poursuivra jusqu'à 00h30. Le traditionnel tapis rouge a démarré depuis 18h30, tandis que la cérémonie sera lancée donc dans quelques instants à 19h30 officiellement et devrait s'achever autour de 20h50. Pour eux, on saura bien sûr qui sera le ballon d'or France Football 2019 et donc va succéder au Croate Luka Modric. Vous suivez Sporama, suivez Afrique. L'émission revient tout de suite. Donc, retour sur le continent pour parler des compétitions interclubs. Ce week-end a été marqué par la première journée des matchs de poule des Coupes africaines de clubs. Et puis, on commence par la Ligue des Champions. Le double tenant du titre, l'Espérance de Tunis, s'est imposé 2-0 sur le terrain du Raja de Casablanca. Alors, Amine, début de 1 de la phase de poule quand même compliqué pour les Rajaouis.
Début très compliqué dans une compétition et dans un qui n'avait plus foulé depuis l'année 2011. Et le facteur expérience, le facteur gestion des nerfs et gestion des temps forts et temps faibles a été largement à l'avantage de l'équipe tunisienne, qui avait été échaudée la semaine précédente par une élimination en Coupe arabe des clubs champions par le club de Safi, alors que l'équipe du Raja était sur une remontada face au rival éternel Wydad de Casablanca. Les Tunisiens ont su garder les pieds sur terre alors que les Casablancais n'avaient visiblement pas réussi à revenir sur le terrain de leur exploit avec un mental d'acier. On a vu une équipe tunisienne bien en place qui a surtout réussi à faire la différence dans le premier quart d'heure, profitant de quelques largesses défensives de cette équipe du Raja de Casablanca. Et à partir des deux buts inscrits, notamment le premier par Anis Badri, les Tunisiens ont su gérer la rencontre, cadenassant quand il fallait, cassant le rythme quand ça s'imposait. Surtout, l'équipe du Raja de Casablanca n'a pas su profiter des quelques occasions qu'elle s'est procurées, notamment en seconde mi-temps. Autant dire que l'Espérance de Tunis a impressionné. C'est un effectif remanié à près de 50% avec pas moins de 7 joueurs étrangers. Il est vrai que sur cette compétition, depuis le début de la saison, les joueurs algériens, ou nord-africains sont considérés comme des nationaux, donc intégrés et visiblement déjà dans les automatismes de cette équipe de l'Espérance de Tunis, qui fait figure d'épouvantail dans un groupe considéré comme le groupe de la mort, avec également la JSK et la Vita Club de Kinshasa.
L'Espérance de Tunis partage donc la tête du groupe D avec la JS Kabylie, qui a battu l'AS Vita Club de Kinshasa 1-0. Alors, Élisée, le déplacement s'annonçait difficile pour les Quinois dans le jardin des Algériens. Eh bien, finalement, les Quinois ont plié les Chines. Élisée? Et donc, on a du mal à joindre Élisée depuis Boïcon au Bénin dans la poule C. Mamelodi Sundowns a réussi son coup à domicile 3-0 face aux Angolais de Petro Athletic de Luanda. Alors, Amine, dans l'autre match du groupe C, le Wydad de Casablanca a ramené le point du nul lors de son déplacement en Algérie face à l'USM Alger 1-1.
Et puis la question qui devrait être posée du côté du club du Wydad de Casablanca, est-ce un verre à moitié vide ou à moitié plein? Parce que le Wydad partait comme favori face à l'USMA malgré le déplacement. On se rappelle que les Algériens vivent une crise financière assez grave, qu'ils avaient menacé de boycotter la compétition faute de ressources financières. Le Wydad gérait une crise après une élimination face au Raja de Casablanca. Et on a vu une équipe amoindrie par de nombreux blessés, de nombreux joueurs qui ont été sanctionné par la commission de discipline du club, et surtout une équipe qui a pris un but d'entrée de jeu dès la cinquième minute et qui n'a pas su capitaliser sur cet temps fort, que ce soit en première mi-temps ou en seconde. Et il a fallu une égalisation in extremis de Badia à la 87e minute pour permettre au Wydad de Casablanca de sauver les meubles et de ramener au moins un nul dans son antre du complexe sportif Mohamed V. Autant dire que sur le terrain, l'équipe a été supérieure, notamment en deuxième mi-temps face à une équipe de l'USMA Alger à un bout de ressources physiques et tactique, mais évidemment ce point ne pourrait peut-être pas suffire à cette équipe du Wydad de Casablanca, car elle aura à en découdre cette semaine avec les Mamelodi Sundowns, qui restent sur une large victoire à domicile face aux champions d'Angola sur le score de 3-0. Ce seront des retrouvailles entre les équipes qui sont habituées à se croiser, mais visiblement le Wydad est un cran dessous par rapport à la saison dernière, et égard aux nombreux blessés, surtout un mental défaillant depuis une élimination en Coupe arabe des clubs champions.
Dans le groupe B, victoire des Soudanais d'Al Hilal 2-1 devant les Zimbabwéens de Platinum FC et des Tunisiens de l'Étoile du Sahel 1-0 face aux Égyptiens d'Al Ahly du Caire. Dans le groupe A, les Angolais du Primeiro de Agosto et les Zambiens des Esco ont fait un match nul d'un but partout. Toujours dans ce groupe A-là, le match qui pèse 10 Ligues des Champions entre le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi et le Zamalek du Caire a été remporté par les Corbeaux de Lubumbashi, donc 3-0. Alors, Valdo, c'était un choc très attendu et finalement, ce fut une balade de santé pour les Corbeaux.
Ah ben, il fallait attendre la fin de cette rencontre pour constater que c'était une balade des Corbeaux. Mais à l'annonce, c'était vraiment le choc, comme vous l'avez si bien dit. 10 titres de Ligue des Champions à ces deux clubs-là et s'affronter au stade du tout-puissant Gaber Mazembe. C'était le duel attendu et Mazembe a répondu présent avec, bien sûr, Patou Kabangou, l'un des joueurs qui s'est bien illustré. Rappelez-vous, il était de l'épopée également de la Coupe du Monde de Club. En 2010, Patou était dès la partie et il est encore là. C'est lui qui a délivré trois passes décisives à ses deux compères, notamment à présent Toutou et les jeunes Moudeka. 3-0 dans Mazembe est resté dans la dynamique de ses 80 ans. On va le dire comme ça parce qu'il y a peu, 48 heures avant, les Corbeaux étaient dans les festivités de 80 ans et ils ont craigné beaucoup plus que cette fête puisse peser. Lors de cette rencontre, mais ça a été plutôt dans une très bonne continuité. 3-0, il fallait bien le faire. Ensuite, Mialio et ses hommes ont assuré l'entame en cette phase de groupe. Ils montrent ainsi leurs ambitions à cette édition de la Ligue des Champions de la CAF. Donc, une très très bonne entame et une très grosse performance, très bonne impression laissée par les Corbeaux au terme de cette opposition. Je crois qu'il y a eu quelques révoltes de la part des joueurs des Égyptiens qui ont contesté quelques décisions de l'arbitre, mais au final, ils se sont inclinés, battus lourdement 3-0.
Le tout-puissant Mazembe, vous le disiez si bien, qui a fêté ses 80 ans d'existence cette année et qui, pour l'occasion, a reçu la visite de Gianni Infantino, président de la FIFA, aux côtés du président de la CAF, Ahmad Ahmad, de Moïse Katumbi, président du tout-puissant Mazembe, et de Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football. Alors, Jules, le TP à 80 ans, c'est énorme. Jules ?
Oui.
Je disais que le tout-puissant Mazembe a fêté ses 80 ans d'existence. C'est énorme,
Oui, c'est énorme. Ça, c'est un grand, le tout-puissant Mazembe. Le tout-puissant Mazembe depuis l'époque des Belges, en passant par l'époque des années 60 avec les Kalala, et nous avons affaire à un dinosaure du football africain. Et donc, bientôt près d'un siècle, comme les équipes européennes, les grandes équipes européennes, et ce n'est que mérité pour un grand du football africain.
Alors, Jules, je reste avec vous. Infantino a souhaité la création d'une ligue africaine qui va rassembler les 20 meilleurs clubs du continent et il estime qu'une telle organisation peut générer au moins 200 millions de dollars de revenus par an. Et selon Infantino, l'enjeu est d'arrêter le départ des joueurs africains vers les autres championnats. Et Infantino qui était à Brazzaville vendredi dernier. Alors, est-ce que véritablement la question se pose de savoir s'il faut créer une nouvelle encore ligue dans la mesure où on a des compétitions comme la Ligue des Champions et la Coupe CAF, il faudra simplement soutenir ces compétitions-là?
Oui, bien sûr, mais sinon l'idée n'est pas si mauvaise que cela. C'est que ce qui manque aux footballeurs africains, c'est de la compétition. C'est la compétition. Donc, lorsque on se retrouvera dans une situation où les équipes ont des chances de jouer plusieurs matchs et donc de se battre pour passer au palier supérieur et continuer, comme ça a été pour le cas du passage en Europe entre la Coupe des clubs champions et la Ligue des champions, je crois que Infantino n'a pas totalement tort. Cela est faisable, mais il faudrait vraiment étudier le projet à fond et surtout essayer d'en tirer les meilleurs dividendes.
Première journée également en Coupe de la Confédération et le finaliste de la dernière édition. La Renaissance sportive de Berkane a fait parler son expérience. Les Marocains ont corrigé les novices béninois d'Esaü 3-0. Une première expérience selon le coach du club de Cotonou, Bio Richard.
Le but que nous prenons, vraiment, c'est le but d'une expérience. Mais il faut reconnaître qu'en face, il y a un travail qui est fait et on avait en face vraiment une équipe digne de ce nom. Ça, il faut le reconnaître.
C'était donc Bio Richard, coach de l'ESAU du Bénin, au micro d'Amine Birouk. Alors, Amine, ce fut un apprentissage douloureux pour les Béninois.
Et un baptême de feu assez douloureux pour les Béninois face à une équipe qui a pris le match d'entrée de jeu, qui a réussi à mener au score 2-0 après une demi-heure et qui a inscrit un troisième but à l'heure de jeu. Autant dire que la Renaissance sportive de Berkane est aujourd'hui une équipe rodée aux joutes africaines, notamment à la Coupe de la CAF, puisqu'elle avait été quart de finaliste il y a 2 ans et puis finaliste la saison dernière. Une équipe au jeu direct avec de grands gabarits, un facteur expérience important face à une équipe qui découvrait ce stade de la compétition. On verra maintenant si Berkane va savoir voyager lors de son déplacement face à Zanaco et surtout si les Béninois vont pouvoir se ressaisir lors de leur match face à un autre épouvantail du groupe, les Congolais du FC Motema Pembe.
Les Marocains qui devancent donc les Congolais justement du DC Motema Pembe et les Zambiens de Zanaco qui se sont neutralisés 1-0. Alors Valdo, le DC laisse filer 2 points.
Eh bien oui, hein, les Drinkers Motema Pembe est bien averti. Des Saint-Pé qui a du mal à se produire ici à Kinshasa. Et puis, bien sûr, ces matchs qualificatifs avant la phase de groupe. Et ça a été également le cas lors de cette première rencontre, comptant pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Poussif et puis assez timoré et timide également. Les Darins a réussi à revenir dans la partie vers les 18 minutes de cette rencontre. Donc, ça paraît un peu compliqué et complexe pour les clubs, surtout lors des doubles confrontations face à Berkane, quand on sait que déjà ce week-end, ils vont aller en déplacement, joué contre SAE. C'est des jeunes formations qui est en plein apprentissage dans cette compétition. Bering a intérêt à se faire une très bonne santé face à cette équipe parce que ça risque d'être très compliqué pour les prochaines journées.
Ça s'est bien passé par contre pour d'autres débutants, ceux de Pyramide FC dans le groupe A notamment. Les Égyptiens ont dominé les Nigériens des Nungu Rangers 3-1 et partagent donc la tête du groupe avec Al Masri d'Égypte qui a dominé sur le fil 3-2 les Mauritaniens de Nouadhibou. Dans la poule B, pas de vainqueur sur les deux matchs, 1-1 entre les Libyens d'Al Nassr et les Maliens de Djoliba AC. Et puis un 0-0 entre les Sud-Africains de Bidvex et les Guinéens de Oroya. Et justement, dans la poule D, Hassania Agadir a gagné 2-0 devant les Nigériens d'Inimba. les matchs de la deuxième journée de cette Coupe de la Confédération et ceux de la Ligue des Champions se joueront donc le week-end prochain. Sporama qui s'achève ici. On était avec Amine Birouk depuis Casablanca, Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon, Élisée Mpatine depuis Boïcon, Valdo Simbo Yamba depuis Kinshasa, Amdine Si était également avec nous depuis Columbus ici aux États-Unis. À la réalisation, Josel Mauricien. Devant ce micro, Yakuba Ouédraogo. Tout de suite, une nouvelle édition du journal avec Jacques Aristide. Pour ma part, on se retrouve lundi prochain.